VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 16 avril 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Au Niger, nouveau heurt hier à Niamey entre les forces de l'ordre et les manifestants qui continuent de protester contre la loi de finances.
Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne l'attaque meurtrière de samedi à Tombouctou au Mali contre le supercamp de la MINUSMA et de Barkhane.
Le président du Nigeria sera reçu à la fin du mois à Washington par son homologue américain Donald Trump.
Les frappes militaires de samedi contre des cibles en Syrie ne marquent pas la fin des actions de Washington, avertissent les États-Unis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Niger, la nouvelle loi de finances continue de susciter des réactions de colère au sein de la population, alors que le gouvernement du président Mahamadou Issoufou tente de contenir la contestation. Ce week-end à Niamey, les autorités ont empêché les manifestations orchestrées par l'opposition et la société civile. Précision de Jean-Roger Bion.
Les forces de l'ordre n'y sont pas allées de main morte. Dès le début du mouvement, place Toumo, lieu de départ de la marche, la police a bloqué tout attroupement et contraint les manifestants à se disperser. Les organisateurs avaient prévu de conduire la foule jusqu'au Parlement pour un sit-in. Les journalistes sur place parlent de confrontations violentes entre les policiers et les manifestants en colère, avec d'une part l'usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre et de l'autre de jets de pierre par les civils. Des barricades enflammées ont été érigées en certains endroits. Ces nouveaux heurts à Niamey font suite à la décision des autorités samedi d'interdire la marche pour des raisons de sécurité. Les organisateurs ont donc fait fi de l'interdiction, qu'ils jugeaient illégale d'ailleurs. Ils ont appelé leurs militants à organiser la résistance citoyenne. Les critiques de la loi de finances 2018 accusent le gouvernement nigérien d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts, tout en favorisant largement certains acteurs du secteur privé, dont les compagnies de téléphonie.
Au Niger, donc, on vient de le dire, le Conseil de sécurité, maintenant parlant du Mali, le Conseil de sécurité a condamné dans les termes les plus forts la récente attaque meurtrière perpétrée par des extrémistes samedi à Tombouctou dans le nord du Mali contre le supercamp de la MINUSMA et de la force française Barkhane. Un casque bleu burkinabé a été tué, un certain nombre de personnes blessées, dont 7 soldats français. Selon l'agence AP, 7 assaillants ont été également tués. L'armée française parle d'une attaque particulièrement sophistiquée et sournoise, les assaillants l'ayant menée déguisée, pour certains, en casque bleu et utilisant des véhicules maquillés aux côtes de l'ONU ou des forces armées maliennes.
Joint au téléphone par notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, le secrétaire général du Mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, basé à Ménaka, Moussa Ag Acharatouman, a déclaré, je cite, « Il faut que les Maliens comprennent que le monde ne va pas faire notre sécurité à notre place, on doit s'assumer », il explique.
Aujourd'hui, il faut que les Maliens sachent que c'est ni à la France ni à l'AMINUSMA de faire la sécurité et de ramener la paix pour nos populations à notre place. C'est d'abord notre devoir, c'est d'abord notre mission aujourd'hui de se donner la main dans un premier temps, se réconcilier et dans un deuxième temps, essayer vraiment de contrer cette menace-là parce que nous en sommes les premières victimes. Et cette guerre, personne ne peut la réussir à notre place et personne ne peut la faire mieux que nous. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans les zones dans lesquelles les populations locales se sont engagées, ben c'est les zones dans lesquelles on est en train de respirer et les zones dans lesquelles les populations restent dominée par ces organisations totalitaristes, malheureusement, même si Barkhane est là, même si l'armée est là, si les populations ne collaborent pas, et bien c'est quelque chose qui ne va jamais aller de l'avant.
En République démocratique du Congo, un porte-parole militaire a indiqué hier qu'un civil a été tué dans une attaque samedi et qu'un assaillant, membre présumé de la milice ougandaise musulmane ADF, a été arrêté près de Beni, dans l'est du pays. Les ADF ont attaqué nos positions à Ngadi, nous les avons pourchassés. Et maintenant, la situation est devenue calme dans la ville de Beni, a assuré Mike Azukai, un des porte-parole de l'armée congolaise dans le Nord Kivu.
Le président du Nigeria sera à Washington à la fin de ce mois. La Maison-Blanche, en annonçant cette visite, a précisé que Muhammadu Buhari aura, avec le président Donald Trump, des discussions portant entre autres sur la lutte contre le terrorisme. Des détails avec Gabi Dorsil.
La Maison-Blanche reconnaît l'important rôle que joue le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, devant l'Afrique du Sud et l'Égypte, dans le domaine de la sécurité. Le communiqué annonçant la visite le 30 avril de M. Buhari fait référence aux objectifs communs existants entre Washington et Abuja, notamment en ce qui a trait à la lutte contre le terrorisme. Le président Trump a hâte de discuter des moyens d'accroître notre partenariat stratégique et de faire avancer nos priorités partagées, indique le communiqué. Si le gouvernement nigérian compte sur Washington pour l'aider à combattre les extrémistes de Boko Haram, le soutien américain s'étend aussi à d'autres domaines tels que la santé, la bonne gouvernance et la promotion des valeurs et institutions démocratiques, selon les informations du département d'État publiées auparavant. L'annonce de la venue prochaine de Muhammadu Buhari dans la capitale américaine intervient un jour après la commémoration du 4e anniversaire de l'enlèvement par Boko Haram des lycéens de Chibok, un enlèvement de masse qui avait provoqué une réaction internationale et rappelé les horreurs de Boko Haram.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les frappes militaires contre des cibles en Syrie durant le week-end ne marquent pas la fin des actions de Washington. D'autres interventions suivront en cas de nouvelle attaque chimique, ont prévenu les autorités américaines. Par ailleurs, le soutien de Moscou au régime de Bachar al-Assad aura des conséquences, a expliqué la représentante permanente des États-Unis à l'ONU. Et de nouveau, Jean-Roger Bion.
Washington a adressé une mise en garde à Moscou et Téhéran suite aux frappes menées de concert avec la France et la Grande-Bretagne, lesquelles ont été qualifiées de succès dans les capitales occidentales. Le gouvernement américain promet de poursuivre sa campagne au niveau diplomatique et économique. L'ambassadrice Nikki Haley a fait savoir que Washington va prendre ce lundi de nouvelles sanctions contre la Russie en lien avec l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien soutenu politiquement et militairement par Moscou. Quant aux frappes elles-mêmes, elles ont été condamnées par Damas et ses alliés qui voient en cette action une violation du droit international. Le président russe Vladimir Poutine a averti dimanche que de nouvelles frappes occidentales contre la Syrie provoqueraient le chaos dans les relations internationales.
Ajoutons que la Maison-Blanche a précisé hier que le président Donald Trump reste déterminé à retirer de Syrie les troupes américaines qui y sont actuellement déployées. Son homologue français, Emmanuel Macron, avait auparavant déclaré qu'il avait convaincu M. Trump de maintenir sur place les troupes en question. La mission américaine n'a pas changé. Le président a dit clairement qu'il veut que les forces américaines rentrent dès que possible, a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. Elle a ajouté que les États-Unis veulent écraser complètement le groupe État islamique et créer les conditions qui empêcheront son retour.
Les dirigeants arabes ont dénoncé hier, au terme de leur sommet en Arabie Saoudite, la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, et ils ont condamné, comme chaque année, les ingérences de l'Iran dans leurs affaires.
Plus de 200 migrants africains illégaux détenus dans une prison du sud d'Israël ont été libérés hier à la suite d'une décision de la Cour suprême israélienne, ont annoncé à l'AFP les services de l'immigration. Ces derniers avaient aussi dit auparavant qu'ils procéderaient à ces libérations pour une deuxième raison, les négociations entre l'État d'Israël et un pays tiers pour accueillir des migrants sont encore en cours. L'Ouganda a fait savoir vendredi qu'il envisageait d'accueillir sur son sol quelques 500 migrants érythréens et soudanais en situation irrégulière en Israël et que l'État hébreu entend expulser.
Ici à Washington, la chaîne de télévision ABC a diffusé hier son interview tant attendue avec l'ancien directeur du FBI, la police fédérale américaine, James Comey, qui a écrit un livre fort critique du président Donald Trump, A High Loyalty. Monsieur Comey a dit entre autres que le président qu'il a limogé est moralement inapte à diriger les États-Unis. Pour sa part, le président américain avait souligné auparavant dans des tweets que M. Comey devrait être emprisonné pour avoir révélé des informations classées et menti, selon lui, au Congrès. Le livre de M. Comey doit être publié demain. Il est presque au sommet des listes de best-sellers, si l'on en juge par les préventes.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Eric Manirakiza.
La diaspora africaine a transféré vers le continent 65 milliards de dollars en 2017. Ce montant aurait profité à plus de 120 millions d'Africains et représente plus du double de l'aide publique au développement pour l'Afrique. D'après l'African Institute for Remittances, ces fonds proviendraient d'opérations de plus de 30 millions de migrants africains. Les transferts de fonds vers l'Afrique sont les plus coûteux de toute la planète. Pour 2019, l'institution prévoit une réduction des coûts de transfert à 7%. Les échanges commerciaux entre l'Indonésie et l'Afrique ont dépassé 8 milliards de dollars en 2017, une augmentation de plus de 15%. Entre le 10 et le 11 avril, Bali a abrité le premier forum Indonésie-Afrique. Il a débouché sur des accords de plus d'un milliard de dollars dans les domaines du commerce et de l'investissement. Le commerce bilatéral devrait croître de 11% en 2018. Le ministre indonésien du commerce a toutefois souhaité de négociations sur des accords tarifaires préférentiels avec des pays ou des groupements régionaux africains. La France veut aider le Congo surendetté à hauteur de 135 millions d'euros. Mais Brazzaville doit conclure d'abord un programme de relance avec le Fonds monétaire international FMI. La même condition est aussi valable pour d'autres pays d'Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. La France a prévu 1 milliard d'euros d'aide ou de prêts pour les pays d'Afrique centrale appartenant à la zone France CFA et frappés par la chute des prix du pétrole.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la 7e fois de son histoire.
Oui, attendu depuis plusieurs semaines, le titre de champion de France du PSG est désormais officiel. Paris n'a eu aucune pitié pour Monaco, son dauphin, humilié 7-1 au Parc des Princes. Monaco garde 4 longueurs d'avance sur les deux Olympiques dans la quête du dernier ticket directement qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions.
En Angleterre, Manchester United offre le titre à Manchester City.
Pour la 5e fois de son histoire, Manchester City est devenu champion d'Angleterre grâce à la défaite 1-0 de son rival Manchester United face à West Bromwich Albion. Un sacre qui ne souffre d'aucune contestation. L'équipe de Guardiola étant restée invaincue jusqu'à la 23e journée.
Sur le continent, en République démocratique du Congo, les play-offs se poursuivent avec la 6e journée.
3 matchs au programme, dont le derby louchois entre Saint-Éloi-Lupopo et tout-puissant Mazembe. Les deux équipes n'ont pas pu se départager. Score 0-0. Les Corbeaux sont 2e au classement derrière Sanga Balindé. Les Cheminots sont eux 4e. Pour la suite des résultats, l'AS Manema Union s'impose 2-0 à Lumumbashi face à Don Bosco et grimpe à la 5e place avec 7 points pour 3 matchs joués. Et puis l'AS Dragon a fait forte impression en allant étrier Dauphin Noir 4-0.
En Algérie, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe Nationale.
Et ce sera entre JS Kabylie et Belabès. La jeunesse sportive de Kabylie a validé son billet en éliminant le MC Alger au tir au but 5-4 après un match nul et Viège. La JSK jouera le titre face à l'USM Belabès qui a réalisé le service minimum devant CR Zaouia qui évolue en Régional 1. Rendez-vous donc le 1er mai pour la finale.
Cyclisme à présent avec l'épilogue hier du Tour du Togo.
Et c'est le Burkinabé Aziz Abdoul Nikima qui s'impose avec 4 secondes d'avance sur le Belge Sandé Koudel et 12 sur l'Ivoirien Bamba Karamoko. La dernière étape courue hier dans les rues de Lomé a été remportée par Sanders devant Nikema. Et puis, basketball pour finir, Idrissa, avec vous, les résultats de la nuit à NBA.
Les résultats du premier tour des playoffs NBA après le match numéro 1. Conférence Est, Toronto bat Washington 114-106. Toronto mène 1-0. Boston bat Milwaukee 113-107. Boston mène 1-0. Philadelphie bat Miami 130-103, menant 1-0. Indiana bat Cleveland 98-80, menant 1-0. Houston bat Minnesota 104-101, Houston mène 1-0. Golden State bat San Antonio 113-92. Golden State mène 1-0. La Nouvelle-Orléans bat Portland 97-95. La Nouvelle-Orléans mène 1-0. Oklahoma City bat Utah 116-108, menant 1-0.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Donald Trump a levé la mesure interdisant les visas pour les ressortissants tchadiens pour se rendre sur le territoire américain. Il avait mis le Tchad sur la liste dans son dernier décret migratoire en septembre 2017, après avoir constaté des lacunes dans la gestion des documents de voyage et de partage d'informations sur la lutte contre le terrorisme. Réaction des Tchadiens dans ce reportage d'André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, à N'Djamena.
Une décision qui a choqué en son temps nombre de Tchadiens vu l'engagement de leur pays dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La levée de cette sanction est entrée en vigueur vendredi dernier. Pour Ngaronde Diarma, infirmier à la retraite, la normalisation des relations diplomatiques entre le Tchad et les États-Unis coïncide malheureusement avec double triste anniversaire. L'assassinat du premier président tchadien François Tombambaï dans un coup d'état militaire et la tentative de prise du pouvoir par les armes par un groupe rebelle dirigé par Mahamat Nour.
Effectivement, c'est une date maudite. Qu'est-ce que les gens ont fait pour qu'ils se réconcilient avec eux? Ils nous ont fait du mal. Chez l'Américain, ce n'est ni Rome, ce n'est ni la Mecque. Pourquoi aller là-bas faire quoi? Moi, je trouve que ce n'est pas un événement.
Mahamat Diga Dimbaye, qui coordonne une coalition Touche pas à mes acquis, une société civile proche du pouvoir, a souligné que la levée de cette mesure est une victoire sur une décision prise de manière active. S'agissant du drapeau américain qui a été brûlé lors de la manifestation populaire qu'il a initiée pour protester contre la décision de Trump, Mahamat Diga Dimbaye tente de se justifier.
J'ose vous dire, pour apporter un démenti à cette information, parce que officiellement nous n'avons pas du tout brûlé les drapeaux des États-Unis. C'était une dérive, peut-être quelque part les gens auraient dû faire cela, mais cette manifestation a constitué un déclic important et fondamental dans les négociations.
L'ambassadeur de la paix auprès de la francophonie Abderrahmane Diasnabaï se réjouit de la levée de cette sanction.
Quand je vais à l'extérieur, tout le monde s'étonne comment le Tchad qui a beaucoup fait aujourd'hui se trouve sur une liste noire, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc moi-même quelquefois j'étais en difficulté vis-à-vis des collègues étrangers. Aujourd'hui, on nous a lavé de tout soupçon. Mais j'espère aussi que le gouvernement tchadien tiendra compte de ce qui a été dit et que nos documents de sécurité soient suffisamment protégés.
Pour le président du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad, Mahamat Amat Lazina, cette décision ne changera en rien le quotidien des Tchadiens.
Nous saluons cette décision, mais que les États-Unis, au nom de la lutte contre le terrorisme, ne sacrifient pas les Tchadiens. Tout ce qui se passe au Tchad, la communauté internationale est au courant, mais elle ne dit rien. Mais il oublie que ceux qui sont en train de mourir, ce sont les enfants du Tchad.
Selon l'opinion nationale, la levée de cette mesure va accélérer le dossier du directeur de la compagnie Air Interone, Mathias Sarsi, en détention depuis le 30 septembre 2017 pour financement du terrorisme, blanchiment d'argent, faux et usage de faux, conséquence logique de cette décision. Car déjà en date du 9 avril dernier, la justice a annulé la décision suspendant les activités de transport aérien de la dite compagnie pour vice de procédure. André Kodimadingar N'Djamena, VO Afrique.
Au Cameroun, les formations politiques de l'opposition sont en perte de vitesse quand on tient compte des résultats qu'elles ont obtenus au cours des derniers scrutins, selon notre correspondant sur place. Par exemple, le Social Democratic Front, SDF, principal parti de l'opposition, n'a eu que 7 sièges de sénateurs sur les 70 qui étaient en jeu lors des élections sénatoriales du mois dernier. De Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Il y a des raisons évidentes qui justifient le déclin progressif de l'opposition camerounaise. Explication avec professeur Pascal Messanga Nyamding, politologue, enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun.
L'opposition s'auto-neutralise. Pour preuve, vous pouvez voir les positions d'un Cabral Libi qui est candidat à l'élection présidentielle et l'acharnement qu'il a vis-à-vis de M. Kamto qui lui aussi est candidat à l'élection présidentielle. Et puis à côté, on a une opposition complètement éclatée qui polarise la méfiance de plus en plus du peuple sur elle.
En 2013, 14 sénateurs élus étaient issus du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Ils ne sont plus que 7 à l'issue des dernières élections sénatoriales. Denis Kouemelo, secrétaire général adjoint du SDF, chargé de la communication.
Si les partis de l'opposition ne font que perdre les élections, c'est parce que la démocratie camerounaise est en perte de vitesse. Vous savez que M. Biya est le seul à prendre toutes les décisions majeures sont en rapport avec les élections. Les membres de l'ECAM, Élections Cameroun, l'organe chargé de l'organisation matérielle des élections, sont désignés par M. Biya. Il en est de même du ministre de l'administration territoriale, qui est très loyal au président de la République. Les personnes qui incarnent une nouvelle vision pour le Cameroun sont dépossédées des moyens financiers et des ressources humaines par l'appareil étatique au service du parti de M. Biya.
La faible représentation des partis de l'opposition s'est aussi accentuée à l'Assemblée nationale et au sein des exécutifs communaux. Selon Maïdadi Sédou Yaya, membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, deux facteurs jouent de plus en plus en défaveur de l'opposition camerounaise.
Les partis ne sont pas tellement appuyés par le peuple. Voilà pourquoi la démocratie n'avance pas dans notre pays. L'alliance entre partis reste nécessaire pour gagner une élection, notamment majeure comme la présidentielle. Le pouvoir est en train de tout mettre en œuvre pour que cette alliance ne se fasse pas.
Reste que l'opposition apparaît de plus en plus désunie à quelques mois des élections municipales, législatives et présidentielles de 2018. Marie-Jeanne Abega, ex-militante du mouvement Alternance 2018, ne croit plus à une candidature unique de l'opposition.
Il y a certains avantages que confère la Constitution lorsque un parti présente son candidat à la présidentielle. On a constaté que beaucoup de gens ne veulent pas que ces avantages soient noyés dans le fait qu'ils soient rentrés dans une coalition.
En 1992, l'opposition s'était retrouvée en pole position à l'Assemblée nationale avec 92 députés sur les 180. Depuis lors, elle s'est affaiblie considérablement au grand bonheur du RDPC, le parti au pouvoir. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la lutte contre le chômage des jeunes, une priorité pour le gouvernement, confronté au phénomène de l'immigration clandestine. Il vient d'organiser la troisième édition de la Semaine de l'emploi des jeunes. Précision avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
En dépit des bons chiffres qu'affiche l'économie ivoirienne, le chômage reste une préoccupation majeure pour le gouvernement ainsi que pour des milliers de jeunes diplômés en quête de travail. Pour ces jeunes, cette semaine de l'emploi est une occasion de s'informer des opportunités qu'offre le marché de l'emploi. Bali Élysée est étudiant.
C'est pas facile le marché de l'emploi aujourd'hui. Je pense que dans l'Afrique de l'Ouest même, c'est pas facile. Il faudrait que les dirigeants puissent essayer de mettre encore plus d'accent sur ça, parce que c'est tout ça qui mène à l'immigration clandestine et autres. Donc il faudrait que les États puissent prendre en compte vraiment ce problème majeur là. C'est vrai que la fonction publique ne peut pas employer à 100%, mais il faudrait que l'État aussi puisse jouer sa partition, c'est-à-dire dans les entreprises, à embaucher telle personne, essayer de réduire les impôts.
Koulibaly Daouda est en quête de financement pour un projet agricole, mais pas facile, dit-il, de trouver du crédit auprès des banques.
Il y a un véritable problème de financement vu que les modalités ne sont pas accessibles. Il n'y a pas de souplesse au fait. L'acquisition des financements, quand tu vas vers une banque, il n'y a pas de souplesse. Il y a trop de complications pour pouvoir obtenir un financement. Tout le monde pense que l'État peut embaucher tout le monde. Alors ça, c'est la première problématique. La seconde problématique, c'est que le système francophone dont la Côte d'Ivoire est héritée ne permet pas l'entrepreneuriat. Ce qui fait que la mentalité des Ivoiriens n'est pas encore au niveau proprement dit de l'entrepreneuriat. Donc, il n'y a pas de culture entrepreneuriale, au fait. Tout le monde veut travailler dans les bureaux. Pourtant, il n'y a pas assez de place dans les bureaux.
Certains jeunes, comme Karine Bomisso, déplorent les difficultés à trouver un stage de perfectionnement dans les entreprises.
Avec le stage, on peut montrer nos capacités et avoir de l'expérience également. Même si on ne leur donne pas de l'emploi, d'avoir quand même des stages pour pouvoir se perfectionner, puisque maintenant on parle d'entrepreneuriat. Ça peut me donner des idées pour mettre quelque chose sur place, de créer moi-même ma propre entreprise, une entreprise qui va employer aussi certains jeunes qui vont sortir fraîchement des universités.
Première puissance agricole de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire veut faire de l'agro-industrie l'un des principaux pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes diplômés, d'où le thème retenu pour cette semaine de l'emploi, l'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Quant à la Banque africaine de développement, la BAD, partenaire de cette semaine de l'emploi, elle a décidé d'appuyer ses pays membres en vue de la création de 25 millions d'emplois jeunes sur la période 2016-2025. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
En 2016, c'était avec beaucoup d'espoir que les Béninois, après 10 ans de gestion Boniyahi, avaient suivi la cérémonie d'investiture de leur nouveau président, Patrice Talon, un homme d'affaires qui a fait fortune dans le coton. 2 ans après, l'espoir a cédé la place à la déception, selon la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
100 000 emplois par an, telle était la promesse faite par Patrice Talon. Mais 2 ans après son élection, le gouvernement Talon n'a réussi à créer que 63 284 emplois selon la plateforme des organisations de la société civile dans un rapport publié le 6 avril 2018 et supprimé des milliers d'autres par le biais des réformes institutionnelles et politiques très controversées.
Et le gouvernement actuel est vraiment un regard sur l'emploi des jeunes afin que ceux qui ont les diplômes puissent trouver...
Les jeunes continuent toujours d'attendre que ce que je conseille pour les jeunes, c'est de l'entrepreneuriat et rien que l'entrepreneuriat.
Donc c'est une mauvaise politique que d'investir les jeunes au stage et de les laisser 2 ans après à la maison.
Le chômage est à un taux très élevé actuellement, 14,3% selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Le taux de sous-emploi est quant à lui de 50% selon le même institut. Pour certains, le nouveau départ prôné par le président est une utopie.
Le président Talon avait dit « Je suis prêt ». Et maintenant, mais dans ses actions, on constate qu'il n'est pas prêt.
Côté sécurité, c'est bon. Côté énergie, c'est bon. Le reste, c'est zéro. Le chef de l'État fait des gâpissements, c'est pas bon.
Pour d'autres, ce n'est pas encore le pays d'abondance, mais le chef de l'État mérite qu'on le reconnaisse ses efforts.
Qui dit que le chef de l'État ne travaille pas? S'il a travaillé, moi, dit que le chef de l'État a travaillé.
Sur papier, on le félicite, mais les réalités du terrain sont là.
En 2 ans de gestion de Patrice Talon, la vie est de plus en plus chère. Les produits de première nécessité ont connu une nette augmentation. Le pain est toujours à 125 francs la baguette. Le gari, fabrication locale, a connu une hausse de 100 francs CFA. Le taux de misère et de pauvreté, selon l'INSAE, est passé de 35,1% en 2014 à 41,7% en 2018. Pour Edouard Sonou, économiste de formation, les causes sont évidentes.
Nous avons une économie essentiellement fiscale et ça ne suffit pas. Nous avons une croissance qui est tirée par le coton. On passe tout son temps à aller motiver les paysans à cultiver le coton, qu'on ne mange pas, qu'on ne délaie pas, qu'on n'exporte intégralement.
Et comme si cela ne suffisait pas, une crise sociale s'est installée et semble résister à tous les appels à la négociation. Pour Patrice Talon, la situation actuelle que traverse le Bénin avec la paralysie de l'administration publique est un chemin essentiel pour atteindre de meilleurs horizons.
Il y a une fronde sociale, c'est vrai, mais à vouloir préserver la paix, la quiétude, la tranquillité, au sacrifice de l'effort, au sacrifice des réformes, au sacrifice des exigences d'une renaissance de notre pays, nous allons compromettre la paix pour les temps à venir.
Une des promesses restait vaine, la question énergétique. Pendant 2 ans, les projets se sont succédés sans pour autant résoudre l'épineux problème des délestages dans les multiplications ces derniers mois constituent un casse-tête pour les chefs d'entreprise et les ménages. Au total, 198 promesses auraient été faites par le candidat Patrice Talon pendant les campagnes électorales, selon la plateforme des organisations de la société civile à Cotonou. En 2 ans, la plateforme recense seulement 33 promesses tenues dans la lutte contre la corruption. Pour Martin Assogba et Jean-Baptiste Elias, tous deux membres de la société civile, Patrice Talon mérite encouragement pour sa lutte contre l'impunité.
Lutte sélective ou non, il faut que nous commençons quand même la lutte contre la corruption pratiquement quelque part.
Lutte contre l'impunité à l'ère du président Talon est beaucoup plus marquée.
Pour reconquérir le cœur des Béninois, Patrice Talon doit rendre leur vie un peu plus facile. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des difficultés d'accès aux médicaments antirétroviraux par les patients vivant dans les zones rurales.
Nous évoquerons l'expérience de certaines localités camerounaises où les PVV doivent parcourir de très longues distances pour avoir accès au traitement.
Pour en parler, nous recevrons Emeline Girondin, chargée d'aide au développement d'une ONG qui vient en aide aux malades de certaines zones enclavées.
Nous écouterons aussi le docteur Baleba Aubin, un représentant du gouvernement qui nous dira les efforts faits en faveur des dites populations.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.